All right, c'est parti!
Fait moins soleil qu'hier, mais c'est pas grave.
Il
on a
pleut.
Des nuages.
Ouais, si je pouvais voir à l'extérieur. Peux-tu lever ça un peu? Essayez de voir ce qui se passe dehors.
Ça, c'est... Ouais, exact. Et ta barouette, ça s'entraîne, cette fille-là?
Hey, des gros bras pareil pour lever un star, hein?
Est-ce qu'il pleut encore sur le Bourgneuf?
Non. Non. Mais il a plu pendant au moins une demi-heure.
Ouais, ça commence à sécher, là.
À chécher?
Ça commence à sécher.
Mais c'est les prévisions de la journée, tu l'avais dit, qu'il allait avoir alternance soleil-nuage.
Ben, il y avait de la
averse.
Pluie ce matin, il va y en avoir cet après-midi, maximum de 19 pour aujourd'hui actuellement sur Québec. Je vais juste regarder si...
Vas-y, voir, fais un petit refresh.
14 degrés.
Ouais.
C'est la température à l'aéroport international Jean Lesage.
Ça prend une petite veste aujourd'hui, là.
Donc, c'est les averses pour ce matin, c'est passé. Cet après-midi, ça devrait continuer, minimum de 15. Pour ce qui est de demain, mercredi, ce sera généralement nuageux avec 40% de probabilité d'averses en matinée. Et en après-midi, nous mentionne-t-on, maximum de 17. Jeudi, de la pluie intermittente, maximum de 9. Et vendredi, ce sera nuageux avec un maximum de 8. Je vais continuer puisque le bonheur arrive. Samedi, dimanche, c'est plein soleil. 18 pour samedi, plein soleil. Et dimanche, plein soleil avec un maximum de 19. Donc, on va être gâtés pour le week-end. On paye pour cette semaine, mais on va être gâtés pour le week-end, les amis. Pascal CV, salut!
Salut, Yannick! Mais
content
toi,
de te voir.
Ben, moi aussi, vraiment, vraiment. Est-ce que ça... voyons, excuse-moi. T'es contente de te voir. Ça, il en prend.
Sujet, verbe, journées. Complément.
Mais ça te fait ça, toi? Mais...
Sujet, verbe, compliment.
Ah, oui. Complimarde, ça te fait-tu? Ça?
Non, ouais, non, okay. Ça, c'est inacceptable.
En avançant vers l'été, là, on sait tout le temps que l'été, ça brasse, ça va vite. Il y a des festivals, il y a ci, il y a ça. Cette petite pause-là de météo qui t'oblige à pas nécessairement à être sur la terrasse parce que t'as le goût quand le soleil commence, d'aller faire une petite terrasse avec tes amis le soir après la job. Je trouve que ça apaise. C'est vraiment le moment là, de relaxer, faire son petit ménage, classer ses vêtements, sans se sentir coupable. Puis quand le soleil va arriver, on va être prêt, puis là, on va être en forme. Moi, je la trouve moins angoissante, là, cette période-là. Je la prends.
Oui, c'est ça. Moi, je vais vous parler de ce qui se passe dans ma vie, mais peut-être dans 2-3 mois. Mais ça va extrêmement vite ces temps-ci.
Ouais.
Beaucoup de changements. Fait que, tu sais, cette petite frénésie du printemps, aller prendre un petit verre sur la cassette. Je sais pas, on dirait que ça
existe.
Oui,
mais c'est correct, tu te sentais femme depuis longtemps.
Oui!
Fait que là, tu voulais...
J'étais en transformation.
Je sais.
Mais c'est ça. Là, les parties de hockey, c'est fini.
Enfin!
Là, le deck hockey pour mes gars, c'est les soirs de semaine, ce qui fait en sorte que je vais partir en moto d'ici, puis je vais aller voir mes gars au deck hockey à Sainte-Marie-de-Beauce.
Ça doit faire plaisir quand même que ce soit en semaine versus, même si ça va
versus
vite.
Versus la fin
avec...
de semaine. Ouais. Mais toutes les hockey mom puis les hockey dad, là, on est content de souffler un peu. Bien qu'on adore être avec nos enfants dans les arénas ou encore sur les terrains de ci puis les terrains de ça, n'en demeure pas moins qu'avoir ton week-end à toi avec tes enfants où tu choisis les loisirs et les sports que tu vas faire avec tes enfants plutôt que d'arriver une heure avant la game, aller prendre une petite bière au casse-croûte, prendre ton petit frite avec un peu de ketchup.
Choisir minute par minute.
Une heure plus
faire.
Tard, la game commence. Là, t'as 3 périodes. Après ça, tu retournes à la maison.
OK, tu vas manger au casse-croûte tout seul, finalement.
Ouais, je prends tout le temps une patate. Comme dans le temps, je prends un patate avec
du vinaigre,
ketchup.
Du sel?
Des fois, c'est du sel et vinaigre. Ouais.
Ça, là, je trouve ça s'oublie là, de mettre un peu de vinaigre dans une bonne patate pleine de frites, pleine de graisse. Là.
Puis là, j'essaie d'arrêter, mais tu viens de me faire penser à mes Pringles sel et vinaigre.
Les chips, là, pars-moi pas. Fais attention, là,
les
je suis fragile.
Les Pringles sel et vinaigre. Là.
Fais attention, je suis fragile. Yannick, j'essaie tellement de bien manger, lâche-moi.
Ce qui est gossant, là, c'est que ça arrive comme dans un cylindre. Okay?
Ouais, il m'intéresse pas, moi, ça. Là. Parle-moi ça. Vas-y.
Tu veux que je t'en parle?
Mais j'y trouve plate, ces chips-là.
Ça arrive comme dans un cylindre. Puis là, t'en prends une, mais des fois, il y en a 3 puis 4. Puis là, tu y vas. Puis là, tu trouves ça bon.
Ils sont minces.
Puis là, tu dis encore 2-3. Puis là, 2-3. Puis là, c'est bon.
Ils paraissent pas cochonnes,
puis là,
ces chips-là.
Non, c'est ça. Mais ils sont, là, quand t'en prends 3-4 en ligne. Là.
Ouais.
Fait que c'est ça. Hier, je voulais acheter mes Pringles. Puis je me suis dit, Yann, faut que tu penses à ton alimentation. Fait que.
Surtout, toi, t'as beaucoup de chemin à faire. Là,
j'ai mangé de la salade hier.
T'as mangé de la salade?
Et que j'ai ça.
T'as mangé de la salade de patates? T'as mangé de la salade de...
J'ai ça. Je suis rendu... J'étais un gars de 190 livres. Je suis rendu à 197.
Non, mais ta salade, parle de salade César.
J'ai un dad bod. T'as un coussin à pipe, là. J'ai un dad bod.
Arc!
Quoi?
Tu dis plus jamais ça?
Puis je t'ai cœuré d'avoir ce dad bod-là. Okay. Fait que ce salive-là, faut que je le perde.
Mais c'est la bière,
faut que je le perde. Fait que faut que je fasse des... Pardon?
Ben, ta bière, faut que tu coupes.
Hey, j'ai
c'est
pris une bière
choses...
avec une salade hier. C'est-tu vraiment si grave
ben,
que ça?
Au pire, je vais dire, ça annule, mais
c'est
ça
de la Coors Light, là. C'est comme de l'eau. C'est comme de l'eau pétillante.
Ouais,
là.
Non, ça fonctionne pas de même. Continue. Il va falloir que tu coupes.
Bref, j'ai perdu une livre. J'étais à 196 le matin quand
je me suis levé. OK, ce matin, en ayant mangé... Tu m'énerves.
J'ai mangé de la salade hier.
J'ai perdu une livre, j'ai mangé de la salade hier. Le jour où tu venais t'entraîner avec moi au tonic, au moins une fois pour m'encourager dans tout ce que je fais comme effort...
Je t'encourage, je te dis d'y aller, là.
Je t'encourage, je te dis qu'à un moment donné, ça va se voir. C'est super. Yannick, merci beaucoup d'y aller par méchanceté pour me motiver encore plus. Mais ça va t'aider, il faut que tu coupes l'alcool. Tu sais, moi, ça, je trouve ça tough, parce que je sais qu'à un moment donné, si je veux être au summum en septembre, il va falloir que je la coupe à quelque part. Il y en a qui ont commencé dans mon groupe à couper l'alcool. Nous sommes en mai. Je le cale, Rudy Bouclair a commencé à couper l'alcool en mars. Ça va? Ils sont incroyables, là. Je me sens pas à hauteur. Je suis la plus jeune, là. Je vais finir la dernière.
Je suis plus un buveur social.
Moi aussi, vraiment.
Mais une petite Coors Light, une fois de temps en temps, ça se prend bien après un match de hockey.
Bien, c'est parce que le problème, là. Puis en tout cas, il y a peut-être des célibataires qui vont être capables de parler. Puis toi,
rappelle-toi. On me dit que la salade, c'est loin d'être une diète. Voyons donc. C'est une diète, la salade.
Bien, ça dépend. Si ta salade, c'est de la salade César, si ta salade de patates, tu sais, ta salade.
Non, hier, c'était une salade printanière achetée chez Metro.
Ouais, mais t'avais pas de protéines sûrement dedans. Là.
J'ai acheté du saumon fumé.
Ouais, on avance. Mais si tu te fais une belle portion de légumes à chaque repas avec des belles protéines, ça, c'est intéressant. Là, tu vas peut-être commencer à perdre. Puis surtout à côté.
À côté?
Ouais, là, on va voir plus tes muscles.
Mais ça, je veux pas ça. Je veux juste pas de dad bod.
Oui, mais Yannick, ça va avec la bière, puis ça va avec le fait de s'entraîner correctement.
Ça va-tu avec l'âge?
Ben, ça aide pas, là. Ça aide pas. Là, on est vraiment... Ben oui, il répond à ma question honnêtement, mais t'es une grande insulte à ma vie.
Mais c'est ça, 190, puis là, j'étais à 197. Je sais pas ce qui s'est passé.
Marche.
Pourtant, j'ai jamais autant joué au hockey puis au deck de ma vie.
Mais c'est pas juste ça, là. Si
c'est l'alimentation.
Oui, l'alimentation, 80%. Puis si tu marches, tu
c'est 80% de l'alimentation.
C'est 80% facile. Faut que tu boives de l'eau. Faut que tu manges bien, assez de protéines.
Christian me dit, mange la salade, mais pas de vinaigrette.
Ouais, là, c'est un peu sec. Par contre, là, tu peux en faire de la vinaigrette, pas celle que tu achètes nécessairement. Un petit peu d'huile d'olive, c'est un bon gras, avec un peu de vinaigre balsamique, un petit peu de citron là-dedans, sel, poivre, si tu as besoin.
Des fois, là, je tombe sur des publications où il y a des gars avec des six-packs à 50 ans. Ils mangent quoi, ces gars-là?
Serais-tu game, mettons, qu'on fasse quelque chose de drôle à un moment donné? Que je te fasse tous tes repas pendant une semaine?
Non,
mais t'es obligé de t'en tenir à ça.
Non, faudrait que ce soit filmé puis envoyé en cours.
Pourquoi?
Ben pour qu'un juge puisse garder ça. Là.
Pour voir pourquoi t'es mort. Mais pour vrai, faut que tu fasses un effort à marcher.
Pascal,
oui?
On me dit qu'un hippopotame, ça mange juste ça, de la salade, puis c'est gros.
Eh bien, reste avec tes problèmes de dad bod.
Ça prend de la vinaigrette.
On est là pour t'aider, là, nous autres, puis toi, tu chignes à chacun de nos conseils.
Ça prend de la vinaigrette d'huile d'olive, qu'on me dit.
Bien, c'est ça que je t'ai dit. T'écoutes-tu quand je parle ou je suis qu'un bruit de fond dans ta vie?
Couper le pain et les céréales, Marceau.
Ça va aider. La pizza congelée, les pogos,
tout
la
ce
Coors
est
Light.
C'est-tu vrai? Non, mais la Coors Light, je peux pas arrêter ça. Là.
Les PPP.
Tout ce qui est pain, pâte, pizza,
pain,
patate.
Ça aide.
C'est la base de mon alimentation.
Mais c'est juste ça, ton alimentation. C'est pas la base. Là. C'est
on me dit de l'huile de chanvre pour la salade avec de l'huile d'olive.
Très bon, très bon. Un petit spray d'huile d'avocat dans tes poils aussi.
Mais de l'huile de chanvre, là, ça va-tu me givrer, ça? Là?
Non. Non. Caméline aussi, elle tolère très, très bien la chaleur. Puis en plus, c'est québécois. Il y a
corde
super...
à sauter, 20 minutes par jour, Marceau, tu vas perdre du ventre.
Oui.
Corde à sauter.
Oui, ça va aider. Là, si on veut l'aider, gang, il faut dire que c'est vraiment hot dans Rocky. C'est vraiment très boxeur. Parce que si on dit que c'est dans la gymnastique, il va casser.
Oui, mais ça ne demande pas de la flexibilité.
Pardon, tu viens de faire?
Ça ne demande pas de flexibilité de la corde à danser.
Non, ça va être correct.
Un mois sans alcool, il a perdu... il a perdu un mois sans alcool, il a perdu 8 livres.
Ça fait une énorme différence.
Oh, ouais.
Ça fait une énorme différence.
On me dit que Fit Cook vient de sortir des bonnes vinaigrettes.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Moi, hey, on est-tu quelqu'un qui me dit Yann, tu peux prendre l'Ozempic, moi, mais là.
Mais là, ça va. Non. Je pense c'est pas le candidat pour
ça. Ça serait moins compliqué si j'allais à l'Institut de cardiologie de Québec à me faire une. Chirurgie bariatrique, là.
Ouais, on t'est même pas éligible, là. Calme-toi, là. Ils vont te dire, va perdre ton gras de ventre, là, par toi-même.
Hey, c'est un coussin. C'est un coussin.
Non. Merci.
Salut, Marceau. T'as pas un chum qui est déjà en perte de poids, toi? Ouais, c'est mon chum Louis. Il pesait 500 livres, il est rendu à 187.
Moi, j'ai trop formidable. Quelle constance. C'est mental.
Tough. Ouais, c'est
ça
tough.
A pas de bon sens.
J'ai une autre de mes amies à Sainte-Marie, c'est Sylvie, qui répertorie le poids qu'elle perd aux semaines là, okay. parce qu'elle a fait sa fameuse chirurgie bariatrique. Puis, écoute, je pense qu'elle a 120, 130 livres de perdu.
Wow! Par ouais. elle-même, là, par ouais. des efforts, puis extraordinaire.
J'ai une autre de mes amies qui est en perte de poids, exactement comme Sylvie, puis elle veut pas aller faire la chirurgie bariatrique, elle veut le faire par elle-même, puis elle était très déçue parce qu'elle avait perdu genre 6 ou 7 livres de okay. mémoire. Puis là, elle me disait que c'était pas assez. Puis là, j'ai dit, ouais, mais 6, 7 livres en combien de temps? Ben, elle me dit, en 2 mois. Je dis, ben, va à l'épicerie, là, va chez, ouais. Chez Métro, là, puis prends 7 livres de beurre. Puis dis-toi que c'est ça que t'avais en toi.
Quand même là, exceptionnel.
Là, tu l'as pu.
Puis t'as fait fondre ce gras-là. C'est tough, surtout s'il est packagé dans ton corps.
C'est ça, mais tu sais, 3 livres par mois. Mettons une moyenne de 3 livres par ouais. mois, c'est toujours bien, quoi, 36 livres à la fin de ton année.
Elle va sûrement arriver à un pic où elle va pas perdre autant, là, ça, c'est sûr. Quelqu'un qui parle encore de l'alcool, qui est, bon, je sais pas si c'est une femme ou un homme, mais la personne a arrêté l'alcool il y a 5 mois, 18 livres de perdu.
Chum Steph Crépeau qui dit « Hey, déficit calorique, Marceau, c'est le secret. »
En partie. En partie, mais tu sais, ta musculature aussi, tout ce qui est musculation. Tu sais, je te vois au gym, là, t'es tellement endurant, t'es capable d'aller haut, t'es capable d'aller fort, t'es capable d'aller longtemps, tu sais. Sauf que tu t'entraînes croche.
Je m'entraîne croche.
Tu t'entraînes en genre de guerrier, là. Tu t'entraînes comment je pourrais bien dire ça? Ceux qui sont descendus du nord, là, les Vikings, là.
Oui, d'ici 5 secondes, l'insulte s'en vient. Oui, comment tu pourrais ben, dire ça?
Tu t'entraînes de même, tout croche, t'as mal au corps pendant 3 jours. Donc, t'arrêtes, t'es pas dans constance. Puis tu penses que si tu te mets à suer comme t'es capable d'aller suer, puis tu sais, forcer comme t'es capable d'aller forcer, c'est là où tu vas tout perdre. Mais c'est
Jeff
pas comme ça que ça va se passer.
Salut Marceau, essaie le 75 hard. J'ai perdu 35 PBS. C'est quoi ça?
Ça doit être 35 livres, là.
OK. 35 livres en environ 4 mois. Premièrement, dû au challenge, mais dû surtout aussi aux bonnes habitudes de vie que ça m'a fait prendre.
Yes!
Je suis passé de 205 à 170.
Wow.
J'ai perdu 35 livres.
Wow!
Félicitations!
Réduire les portions, quelqu'un, c'est bon ce qu'il dit, là.
Mais je pense que c'est l'été qui nous fait ça. On veut tout maigrir pour cet été.
Ben, je sais pas si c'est différent d'un homme ou une femme, là, mais moi, je te dirais c'est à l'année, là.
Ouais, mais c'est parce que l'été, on est en bedaine.
Ouais, c'est challengeant, le maillot de bain.
Ouais, c'est
le
ça.
Le maillot de bain est très
surtout
challengeant.
Surtout en speedo, là.
Ben, vous autres, on dirait que vous en foutez plus, là.
Mais c'est quand je passe de côté
mais c'est jamais
devant
les
le
gens
miroir.
Les plus en forme qui sont en speedo, là. Ça, je l'ai jamais compris.
Quand je passe de côté devant le miroir, on ouais. dirait que plus on vieillit, les gars, moins on a de cul, puis plus on a de ventre.
Mais ça se travaille.
On devient comme un extraterrestre. Pas de cul avec hey, un gros ventre.
L'image que tu me donnes, là, ça me tente tellement pas là, de vous imaginer de même. Là.
Ouais. Mais c'est pas grave, vous vous intéressez à notre cerveau plutôt qu'à notre corps. La vie est bien faite.
Tu m'écœures, mais c'est vrai. C'est juste ouais.
Quand tu t'entraînes, Marceau, tu perds du gras mm-hmm. pas pesant et tu gagnes du muscle pesant. C'est pas le poids qu'il faut regarder, mais surtout le tour de taille.
Oui, ça c'est un point. Tu vas te tonifier aussi. Ton muscle va peser plus, mais tu vas devenir qu'à... ramasser un peu ton corps. Moi, c'est ça qui se passe avec mon corps en ce moment. Je suis dans la phase tonification. Là.
Mon chum Steph, il t'a-tu contacté pour aller vider ton drain de douche? Là?
Peut-être, puis je l'ai pas vu.
Parce que là, il vient de réécrire, il dit « Marceau, c'est pas en jouant au hockey que tu vas te mettre en forme, mais l'entraînement de boxe te remettra en forme, crois-moi.
Ouais. »
Effectivement, l'entraînement de boxe est un des meilleurs entraînements pour se remettre en shape. C'est un bon point.
C'est très fort.
J'en ai un autre. Bon, je m'entendrai plus avec lui. Il me dit « Salut Yann, plus de sexe, pas le choix, ça fait maigrir. » Ouais. Chum Collas qui a perdu 15 livres. Il dit « Ma bibliothèque a passé au feu. » Oh, je vous adore. Merci d'être là.
Mais là, tu sais que tu n'as pris aucun conseil. Tu as juste lu et tu as déjà oublié.
Oui!
Ça va être super. Garde-la ta bédaine.
Oui, c'est ça.
Garde-la ta bédaine.
Mais
écoute,
c'est vrai.
Personne, Yannick Marceau.
Mais c'est vrai. On devient qu'une grosse bédaine puis pas de cul. Le cul tombe.
Arrête!
Ça prendrait... J'ai remarqué quelque chose, les
Arrête.
Gars. J'ai remarqué quelque chose, les gars, des filles au gym, OK? Ils ont des nouvelles culottes
ouais.
qu'ils peuvent acheter maintenant qui fait des fesses, là. C'est comme des fesses de béton, là.
Mm-hmm.
Puis ça, c'est la façon dont ils ont mis le tissu puis les
poutures. C'est le V que ça fait au haut de la fesse.
Ouais.
Entre tes fesses.
Fait que c'est comme un mirage, c'est quoi?
Ben, je sais pas, ça dépend à qui. Moi, j'embarque pas là-dedans. Mais oui, effectivement, t'as des pantalons maintenant.
Mais ils devraient faire ça pour les gars. Ils devraient faire ça pour les gars.
Ben, ça serait pas très cute que ça soit moulant de même.
Tu sais, avec des pochettes dedans.
Je suis personne, moi. Qui suis-je pour juger? Mais je suis pas sûre que ça serait très cute, là, de vous voir aussi mouler, là.
Tu sais, qu'une gaine. Oh, c'est une gaine avec des pochettes ou les fesses.
Avec des bretelles pour bien remonter le tout.
Ben, c'est ça.
Mmh.
Un beau cul. Là, c'est en train de tomber.
fou. Mais ça, ça va être des habitudes à changer, Yannick.
Fait que là, faut que je sois en déficit calorique. Mon chum Colosque a dit ça.
OK. Après?
Chum Steph aussi qui a dit ça, déficit calorique.
Après?
Il y en a un qui me dit, j'ai pas ton nom. Il me dit, salut Marceau, j'ai perdu 25 livres en faisant du jujitsu. Va au jujitsu, Marceau.
Ah, ils sont en forme en plus, les gens qui font ça.
Mais
là,
c'est pas ceux-là qui ont des oreilles bizarres.
Ben, tu peux en avoir si tu fais de la compétition, mais si tu fais juste de l'entraînement, t'auras pas des oreilles en chou-fleur, là. Hey, mais ils sont en forme, là.
C'est le jujitsu?
Jujitsu, là, t'es au sol, puis t'apprends en plus des techniques de genre de combat au sol. Moi, j'y pense juste pour me défendre.
Moi, juste à regarder ça aux Olympiques, ça me fait perdre patience. Hey,
mais non.
Ils prennent plus de temps à remettre leur kimono que les passes qu'ils vont faire à terre qui servent à rien.
Tu dis n'importe quoi. Les passes à terre, imagines-tu comment sont faits fort, Yannick, pour faire une clé de jambe, une clé de bras de même, puis que l'autre, elle soit... l'autre qui est une roche en dessous aussi, qui est faite comme du béton, soit pas capable de sortir de là? La technique, la force. Ah non, les gens qui s'entraînent me fascinent au jiu-jitsu, là. Ils sont hot, là, puis sont en forme pas à peu près. Tu pourrais essayer. Peut-être que ça te plairait. Tu découvrirais peut-être une nouvelle passion. Puis tous tes mercredis soirs seraient pris à ça.
Le chum Pierre, il dit, coupe les déjeuners au restaurant.
Mais là, tu y vas même pas.
Ouais, je vois souvent...
La fin de semaine?
Non, la semaine.
T'es rendu de même?
Ouais. Je pense que là, je viens mettre le doigt sur le bobo.
Mais
là,
pense-y, OK?
C'est le... Des fois, là, il y a comme... Tu pars le matin.
Ouais.
Il y a comme un genre de M, là, dans le ciel. Puis il t'appelle.
Ouais.
Puis là, tu te dis, hey, crime, j'ai faim, ça la donne de même. Mm-hmm. Fait que là, tu t'en vas de service au volant, puis tu prends un McMuffin, bacon.
Ouais. Mais tu peux faire des meilleurs choix.
Puis des fois, tu t'arrives, à Val-Bélair, puis là, c'est comme un Tim Horton.
OK.
Puis là, ben, tu te prends un wrap déjeuner du travailleur saucisse.
Ouais.
Ça goûte le ciel.
Ouais.
Mais c'est, je pense que c'est peut-être
ça. Mais l'accumulation aussi.
C'est le déjeuner.
Pense-y, mais si, mettons, toi, tu déjeunes là, deux toasts chaque matin, pain blanc, Nutella ou je sais pas quoi, avec du beurre ou je sais pas quoi. Calcule le nombre de toasts que ça te fait à la fin de la semaine.
Ouais.
Mais mets ça sur ta table et dis, si je change ça pour deux œufs, un fruit, un...
Il n'y a plus moyen d'avoir du fun.
Ben, c'est un peu tough, là. Mais c'est sûr que moi, je fais suer le monde au Tim Hortons quand j'arrive. Je vais prendre un café glacé sans crème, sans sucre, avec, s'il te plaît, ajout d'une dose d'espresso, mousse d'espresso par-dessus.
C'est sûr que tu es fait suer, mais je serais curieux de te voir dans le même char que mes gars. Je serais curieux de voir la fille qui est à la caisse.
Moi et tes gars, mettons.
Ouais. Puis je voudrais.
À 5 dîners quand j'arrive au pays.
Je voudrais être dans le service au volant à côté de la madame qui parle dans le CB, là.
Oui.
Puis juste y voir la face quand tu commandes tes affaires versus ce que mes gars commandent aussi. Puis à chaque fois, en fait, une fois sur deux, les gens se trompent pour les commandes de mes gars.
Mais les gars, c'est quoi? C'est un cheese, pas de fromage?
Non, non,
t'as pas. Rendu là des hamburgers?
Deux McMuffins.
Ouais.
Un pas de fromage,
ouais.
L'autre pas d'œuf.
Pas d'œuf.
Pas d'œuf.
Fait que lui, il veut juste du fromage et du bacon?
Ouais.
C'est pas très bon pour tes gars ça le matin.
Hey, on est deux joueurs de hockey, nous autres. On nous prend du gras. mais une fois sur deux, là, la fille se trompe. Puis
il y en a qui.
Tu sais, pourtant, là, quand ça affiche à l'écran, là,
c'est la bonne chose.
C'est super bien fait.
Ouais.
Puis là, j'arrive dans le char, je suis rendu sur l'autoroute de la bravoure.
Oui.
Puis là, je descends. Puis là, Isaac, il dit, papa, tu veux-tu mon McMuffin? Ils ont mis des œufs dedans.
Ils ont mis un extra.
Prends-les ton œuf, sacré par la fenêtre, puis mange ton cheese. Là.
Pas par la fenêtre, mais ça on a parlé pas de même, hier. Là,
parce qu'il y a des œufs. J'ai essayé ce matin chez Tim Hortons. Je serais curieux d'avoir votre avis, les amis. 418-971-1021. 418-971-1021 par texto. La nouvelle boîte déjeuner de Ryan.
Ryan Gosling?
Non, c'est l'autre Ryan.
Reynolds? Reynolds?
Ryan Reynolds.
Ryan Reynolds?
Ouais, des œufs brouillés de Ryan. C'est des œufs brouillés avec des saucisses brouillées.
Okay.
Avec du bacon, je pense.
Il était payé combien, tu penses, pour s'inventer qu'il mange ça, lui, le matin?
Je sais pas. Ça a coûté 9$.
OK.
C'est... Comment je pourrais décrire? C'est pas dégueulasse.
OK.
Mais j'en recommanderais pas d'autres.
La boîte à déjeuner de Reynolds,
parce que la force,
pas convaincu.
La force de Tim Hortons, c'est le café. Là. Moi, je l'aime bien. Il y en a qui détestent le café. Tim Hortons, ils préfèrent le café chez McDo.
Oh, une petite boîte de Timbits quand tu fais de la route. Là. Wow.
Mais là, la force de Tim Hortons puis McDo, c'est que quand tu achètes des trucs, tu es capable de manger ça dans ton char en t'en allant
absolument
sur l'autoroute. Là, la boîte déjeuner, c'est vraiment une assiette dans laquelle faut que tu manges ça absolument avec une fourchette. Là.
OK, tu peux pas manger ça sur le pouf.
Fait que ce matin, à 70 km/h dans la zone d'autobus... Avec une fourchette puis mon assiette. C'est assez particulier.
Ouais, mais là, ça dépend de ton style de vie. Puis, tu sais, ça, faites pas ça à la maison, là. Faites ce que je dis et non
ce que je
fais.
Mais je suis pas sûr que Ryan a fait une bonne affaire.
Mais, écoute, pardon, lui a fait une bonne affaire. C'est peut-être le team qui vont trouver que les clients, ils peuvent pas manger ça au volant. Donc, moi, des spaghettis, ça m'est arrivé quand c'est connu, là. Puis, je travaille en boss, là.
Des œufs brouillés.
Spaghettis, c'est bon.
Spaghettis, c'est bon.
Ouais.
Mais tu sais que c'est totalement irresponsable, ça.
Ben, j'ai arrêté, là.
C'était une blague, je disais ce matin, là. Moi, j'ai pris à peine d'arrêter dans le stationnement puis manger mes œufs brouillés, mes patates croustillantes, mes saucisses émiettées.
On est en 2015, bacon, j'ai changé.
Tout ça dans le blender avec de la sauce chipotle qui est ajoutée.
Mais ça devait être bon.
C'est ça, je te dis.
C'est pas dégueulasse.
C'est juste que j'en reprendrai pas parce que la force de Tim Hortons, moi, le matin, c'est que je passe au service au volant. Je prends mon petit sandwich rap matin du travers saucisse, puis là, ben, je m'en vais sur le boulevard, puis je mange ça en même
Mais
temps.
Ton histoire, là, mettons, moi, ce que je retiens dans l'effet entonnoir de tout ça, là, c'est à quel point le marketing est fort. Toi, t'as pris le déjeuner à Ryan Reynolds.
Oui.
OK. À Saint-Valentin, j'ai vu que Barilla avait fait des pâtes en forme de cœur. Hey, c'est le fun, tu l'achètes. Après ça, sur les boîtes de Cheerios, comme vous avez vu à l'épicerie, là, sont rendus avec des petits mots dessus. Fait que là, selon la sorte que tu choisis, c'était mon chéri, à mes enfants d'amour, à mon. C'est sûr qu'on flanche. Le marketing est encore très, très fort, même si c'est dans notre visage. Je pense qu'on est assez conscient que Ryan Reynolds ne mange pas ce déjeuner-là le matin, là.
Tu penses?
Mais je pense peut-être qu'il y a des chefs à la maison
je deviendrai
et
pas
les
comme...
meilleurs produits du monde sur sa table.
Je deviendrai pas comme Deadpool.
Non, ça viendra pas avec la shape et le visage.
J'ai encore mes diététistes de brosse là, qui m'écrivent au 418-971-101. Carl qui dit « Yann, faut que tu évites les calories vides quand tu veux perdre du poids. Ouais. Mets-toi au yogourt grec sans sucre, sans gras. Si tu veux que ça goûte bon, ajoute un peu de confiture sans sucre et des petits fruits. »
Ou un genre de sirop d'érable, ça c'est pas pire aussi.
C'est ça. Mais...
Moi, j'aimerais tellement ça faire tes lunchs pendant une semaine et tu es obligé de manger.
Vous êtes plusieurs filles à vouloir faire mes lunchs.
Alors que je ne vais plus faire tes lunchs. Moi, j'étais pas comme co-animatrice, amie, puis plus pour le défi.
Fais la file comme
ça. Ah, laisse. Hey, mon Dieu, je laisse aux autres.
418-971.
Passez devant moi, je suis vraiment, vraiment quelqu'un.
Après la pause, hein, on travaille pour vrai. Denis Gravel s'en vient. Éric Duhem, le nouveau candidat dans Rabaska qui va être avec nous autres vers les alentours de 12h30. Et Pat Raymond, le podcast de Financièrement parlant, va être avec nous pour parler du fameux Warren Buffett qui prend finalement sa retraite à l'âge de presque 90 ans.
Quand il aurait pu la prendre il y a plusieurs années.
Exactement. Donc, on va avoir une belle émission pour vous autres.
On finit sur le conseil santé de notre médecin Wish au 88-971-101. Spécial travailleur en Monster Pin Top. Tellement idiot ce qu'on vient d'en savoir.
Marceau le midi.
Marceau le midi, présenté par Kimono. Enfin, le Kimono de Charlebourg est maintenant ouvert ce soir et tous les midis du lundi au vendredi. Commande et menu au kimono.ca.
Bonne fête, ma grande!
10 ans déjà.
C'est parce que j'ai 14 ans, maman.
Elle est bonne.
Ça grandit vite, un enfant. Cotisez à un régime enregistré d'épargne études de Desjardins dès maintenant.
Ça change tout. Prise 1.
L'événement Ça change tout de Ford bat son plein.
Solide!
Louer un F-150 STX 2025 avec ensemble décor noir d'une valeur de 60 800 à 478 par mois sur 24 mois avec 4 375 d'acompte à 0 %.
C'est 110 par semaine, ça?
Oui, et les propriétaires de Ford admissibles ont un boni de 750 $. Visitez votre détaillant Ford ou Ford.ca. Certaines conditions s'appliquent.
Avec de l'Internet fibre 300 Mbps à 45 par mois, e-box... Ah!
Denis Gravel, mes hommages.
Hello.
Passez une belle matinée.
Oui, quand même.
Manques-tu un peu de soleil aujourd'hui?
Absolument.
Oui.
Mais t'as l'air en forme. Je sais pas, ces temps-ci, c'est-tu le fait que t'es sorti de ta grippe ou...
Hier, j'étais en feu. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir pris, je sais pas, moi, 15, 20, 200 pas de recul par rapport à hier. C'est pas pire parce qu'on a gagné les degrés. T'sais, tu le sais, quand on fait des pas par en avant, là,
oui.
la température est déprimante aujourd'hui, mais on est confortable dehors.
Exact. Comme on hier. On a pogné quoi, 17, 18 à peu près, tout dépendant des endroits où vous étiez.
On était à 19.
Actuellement, on a 16 à l'aéroport Jean-Lesage, donc 16 degrés. Quoi, en ville, doit faire un genre de 17, 18 à peu près. C'est un petit peu plus chaud au centre-ville de Québec. Mais oui, on s'en va vers le bon côté de la température qu'on aime bien.
On est dû.
Hey, plein de choses à jaser, mais ce qui me fait halluciner, c'est un article de Nicolas Lachance dans les journaux de Québécois de ce matin qui parle du gouvernement du Québec qui a fait confiance à un fraudeur qui est aujourd'hui aujourd'hui emprisonné aux États-Unis pour développer son projet d'identité numérique. Et lorsqu'il a finalement été congédié, l'informaticien Yann Ouellet est parti avec les secrets de la recette, comme on dit, ce qui a miné le déploiement de l'application devant permettre aux Québécois de faire toutes leurs transactions avec l'État sur leur téléphone. Et il était sous la gouverne de qui? Éric Kerr. Et n'importe quel technicien informatique, n'importe quel dirigeant d'entreprise qui se respecte, n'importe quel programmeur-analyste va te dire, Denis, la dernière affaire qu'il faut que tu aies dans ton entreprise, c'est qu'une seule personne avec le trousseau de clés. Parce que si cette personne-là se fait frapper dans la rue, ouais, ou si cette personne-là décide de crisser ton entreprise-là parce que mécontent du salaire, ben, tu peux être sûr que c'est toi qui vas être dans le trouble pour des années et des années. Ben, sachez qu'Éric Kerr, même s'il y avait des rumeurs sur cet individu-là comme quoi c'était un croche, ben, Éric Kerr l'avait sous sa gouverne et faisait comme si rien n'était.
C'est donc bien facile d'avoir de l'argent de ce gouvernement-là quand t'es un crosseur, quand t'es un fraudeur, quand t'es une entreprise non solvable, quand tu dis que tu vas faire des autobus mais que tu sais pas comment. Coudon, y a-tu juste les hôpitaux en ruine qui ont de la misère à avoir de l'argent de ce gouvernement-là au total tout?
Qui est juste stupide de pas s'être lancé dans des affaires un peu sombres?
Le mandat de Yann Ouellet, c'était d'accompagner le gouvernement pour mettre en place la transformation numérique du Québec grâce à des logiciels libres. Et rapidement, ce qu'on nous raconte dans le Journal de Québec, c'est qu'il est devenu l'architecte du projet en entier et a agi directement sous la gouverne de l'ex-ministre du numérique, Éric Kerr. Pourtant, en 2017,
c'est ça qui est le plus important.
Son nom, il était sur le radar des autorités des marchés financiers. Il y a plusieurs de ses collègues qui ont mentionné au patron que ce gars-là était à vérifier parce qu'il y avait des problématiques avec l'autorité des marchés financiers. Et il était lié au fameux, la fameuse monnaie là, Plexcoint. Tu te souviens de ça?
Ben oui.
Il y a un gars qui avait floué à peu près 15 000 investisseurs, là, tant au Québec, au Canada qu'aux États-Unis. Et le tribunal administratif des marchés financiers a même émis une ordonnance en 2018 pour bloquer les actifs personnels de Yann Ouellet, malgré le fait que le gars travaillait encore pour le gouvernement. Et Éric Kerr semblait être au courant de tout ça, là.
Les drapeaux rouges, on les voit puis on les collectionne dans ce gouvernement-là. Je suis en train de me demander si on fouille dans le cellulaire d'Éric Kerr, on va trouver combien d'argent qu'il a envoyé en Côte d'Ivoire en attendant des nouvelles du prince. Là.
C'est... Ce fameux prince saoudien qui a besoin de 10 000 $ pour faire débloquer ses milliards.
Ouais, Éric Kerr a envoyé de l'argent à un prince saoudien. Attends sa nouvelle blonde de Russie à qui il a envoyé de l'argent pour son billet d'avion.
Les gars, il y a des gens qui vont vous croire.
Il parle à Brad Pitt à tous les jours.
Il est à l'hôpital, pauvre petit.
Rendu là, ça n'a pas de maudit bon sens, mais si seulement on pouvait juste mettre ce chapeau-là à Éric Kerr, mais regarde comment le gouvernement est prêt à donner à n'importe quel vendeur de vent, à n'importe quel fabricant de moulins à vent. Il y a juste pour les priorités qu'on n'a pas d'argent dans ce gouvernement-là. On en a pour des nouvelles compagnies d'autobus qui sont gérées par des gens qui ne connaissent pas les autobus. On en a pour la pensée magique. Voici une nouvelle technologie, ça va être l'avenir. Pas de suite, mais bientôt. Là, ça nous prend beaucoup d'argent. Ça nous pète d'en face. Toujours la même histoire. Y a-tu juste le monde fiable, respectueux et honnête qui n'ont pas accès à l'argent du gouvernement? On a un hôpital qui est en ruine. On vient de le débloquer de l'argent d'urgence pour qu'il rénove le parking. L'hôpital est pas mieux, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens.
De la gestion de stress. Tu sais, quand tu dis « je suis dans la merde, je ne me ferai pas réélire, les coffres sont en train de saigner
ouais. »,
on dirait une gestion de stress de faire confiance à du monde qui sont les meilleurs à arriver à ce moment-là dans la vie de quiconque et donc du gouvernement pour faire croire qu'ils ont la solution. Et donc, tu signes, tu te dépêches parce que tu penses que tu vas t'en sortir.
On nous dit à nous autres de faire attention à ça parce que tout le monde est prêt à nous frauder, tu sais. Puis le gouvernement se laisse embarquer par n'importe qui, n'importe comment, même quand il y a des avertissements. Si je t'avertis deux jours avant, « Hey, Marceau, il y a des gens qui passent, qui font du porte-à-porte puis qui te proposent de refaire ton terrassement. Là. C'est des crosseurs. Ils ont déjà fait deux quartiers puis ils sont partis avec l'argent. Vas-tu lui donner du cash pas quand ils vont cogner à ta porte? » Ben, le gouvernement, c'est ça qu'ils font. « Ah, il a dû retenir la leçon. Hein? On va y confier nos avoirs, puis on va y confier nos secrets, puis on va y faire monter le réseau informatique. »
Sachant que le gars était louche, puis tu sais, moi, je te l'ai déjà dit, Denis, j'ai un problème d'empathie. Là. Fait que, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je lâche ce gars-là, parce que s'il arrive quelque chose, mettons qu'il a pris une mauvaise décision, puis malheureusement, c'est terminé, je vais me sentir coupable. Mm-hmm. Tu comprends? Fait que je me suis dit, faut que je le lâche. Faut que j'arrête de parler de lui. Mais des fois, j'ai pas le choix. Éric Kerr est un gars qui a maintes fois fait preuve qu'il manquait de jugement. On a tous déjà manqué de jugement dans notre vie, soit dit en passant.
Oui, on pourrait écrire des livres.
Mais quand ton jugement fait en sorte que tu peux être ministre, exemple, ben, tu es reconnu comme étant quelqu'un qui a bien du jugement, quelqu'un qui est capable de faire progresser des choses. Mais Éric Kerr, depuis le début où il s'est lancé en politique, et ça remonte à l'ADQ, était un gars qui avait des problématiques avec son jugement, à commencer par mentir sur son CV.
Ouais.
Il s'est fait prendre.
Mm-hmm.
C'était connu de tout le monde à l'Assemblée nationale, c'était connu de tous les journalistes, c'était connu de tous ses collègues. Il s'est fait prendre à mentir sur son CV. Malgré ça, il a réussi à se faire élire pareil dans sa circonscription. Tu sais, je veux pas achaler les gens de la circonscription, mais je leur dirais, écoutez, à radio, sacrifice, à un moment donné, vous allez savoir ce que vos ministres ou ce que vos députés font dans votre région. Et après ça, il est arrivé plein de choses qui te disent, « Hey, ce gars-là, tu y touches pas même avec un bâton de marde.
Ouais.
Tu y touches pas. » Il a emprunté de l'argent alors qu'il était député. Il a emprunté de l'argent à un échevin qui était dans sa circonscription, Émile Loranger. Éric Kerr voulait s'acheter une maison avec sa conjointe. Mm-hmm. Il a emprunté de l'argent à un échevin alors qu'il est député. C'est le manque de jugement le plus flagrant des dernières années de la part d'un député de la région de Québec. Et malgré ça, il a continué à avoir des grandes responsabilités. Et là, il y avait un fraudeur sous sa gouverne, Yann Ouellette. Et il le savait parce qu'il se l'était fait dire. Mais il était tellement emballé par le travail de Yann Ouellette que le ministre a accordé une multitude d'entrevues, que ce soit à Radio-Canada, que ce soit à TVA, que ce soit dans les stations de radio, en décembre 2019, et dans laquelle il promettait une application sécurisée pour que ses citoyens puissent payer des permis ou encore prendre rendez-vous au plus tard, au début de l'année 2021. Il était tellement emballé, puis finalement, ben, arriva ce qui arriva, le gars se fait pogner, les Américains le rapatrient aux États-Unis et il part avec la fameuse recette qui nous appartient, la recette du gouvernement, ce qui fout le gouvernement dans l'embarras encore à ce jour.
Mais il y a comme des choses qui se ressemblent entre le comportement d'Éric Kerr vis-à-vis quelqu'un qui est rempli de red flags et le comportement du gouvernement vis-à-vis Éric Kerr qui avait déjà quelques drapeaux rouges lui aussi. Moi, quelqu'un qui n'a pas de jugement, je pense pas que ça se donne à la seringue du jugement. Ça serait le fun, on pourrait faire la file, se mettre ça dans les veines, puis là, on n'en ferait plus d'erreurs de jugement, mais ça marche pas de même. La personne au-dessus qui sait que le candidat, le député, l'éventuel ministre fait des graves erreurs de jugement, puis qui décide quand même de lui donner des responsabilités, là, j'ai des problèmes. Il y a deux façons de constituer une équipe. Hein. Ça peut être une équipe sportive, ça peut être un band, ça peut être une équipe pour travailler, ça peut être une entreprise que tu pars. Tu t'entoures de gens plus forts que toi pour être meilleur puis qui te tirent vers le haut puis que toi, t'apprennes plein de choses d'eux autres. Ou tu t'entoures de gens faibles qui sont moins bons que toi parce que toi, tu vas mieux paraître au sommet de la patente.
Mais tu vas perdre au bout du compte.
Je sais quel genre d'organisation est la CAQ entre les deux, puis je trouve que tu viens d'en donner un exemple qui fesse fort.
Éric Kerr avait promis plusieurs fonctionnalités que seul Yann Ouellette pouvait faire et concevoir. Et après analyse, une fois que le gars il est arrêté puis envoyé aux États-Unis parce que les Américains voulaient le mettre en prison, après analyse, ils se sont rendus compte qu'il y avait juste Yann Ouellette qui était capable d'entrer dans les dossiers puis de faire sortir les programmes sur lesquels il travaillait. Les autres n'avaient pas la clé de la recette.
Mm-hmm.
Ils ne savaient pas.
C'est terrible, ça.
C'est notre gouvernement, là. Ouais.
C'est donné énormément de pouvoir. Puis on serait surpris, hein, si on fait le tour, même au privé, là, du nombre d'entreprises qui confient énormément d'autorité et de responsabilité à un gars d'informatique qui est le seul à comprendre comment tout marche. Mais le gouvernement avait eu des avertissements. Là, tu donnes les clés de la bâtisse.
Ouais.
À quelqu'un qui a déjà des antécédents.
Mais je comprends pas qu'on les vérifie pas. Mais ça fait un peu... Ça fait un peu la lumière sur tout ce qu'ils nous disent des Patrick Mathieu de ce monde, cofondateur du Hackfest, spécialiste en cybersécurité, des Steve Waterhouse que tu vas voir ce soir aussi dans Marceau Soir pour en parler de cette situation-là. Ils disent tout le temps que ce département-là de la sécurité informatique est d'un laxisme fou, qu'on s'en fout justement de qui on engage. On veut juste que ce soit fait, puis on n'a pas pris au sérieux il y a 10, 15, 20 ans, avec l'ampleur d'Internet, des réseaux et autres, ce que ça allait faire sur nos gouvernements. Puis pendant ce temps-là, ben, tu as des géants, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis qui se sont développés et qui sont dans nos systèmes depuis des années maintenant. Puis je pense que tous les déboires de ça, si on pense qu'un Éric Kerr, l'engrenage de la SAAQ, c'est gros, ce qui s'en vient dans l'avenir va être énorme. Puis la chose que je comprends pas, pour avoir parlé hors d'onde avec des gens au gouvernement qui me parlent d'Éric Kerr, il y en a qui disent que c'est vraiment un bon ministre.
Un bon gars!
Ministre. Un bon ministre!
Mais il manque de jugement.
Mais je comprends pas, parce qu'il y a de quoi qu'on sait pas?
Ben, il manque de jugement, mais il peut
lui,
être bien sympathique.
Lui, c'est-tu le gars qui doit ramasser les balles de tout le monde, puis au final, on le met sur sa tête, mais qu'ils se sont dit, c'est tellement rendu que le bain est chaud qu'on continue d'en mettre dans son bain, parce que c'est lui la tête de Turc. Mais ça, ce serait un problème.
Parce que s'il y en
a d'autres, faut les épingler aussi.
Il y en a d'autres.
Je te donne un cas typique qui est arrivé dans ma vie, depuis que je travaille dans les entreprises. À un moment donné, je voyais qu'il y avait un système informatique qui était branché sur un serveur, mais il y avait pas de redondance avec un autre serveur. Ça veut dire que si ce serveur-là pétait, ben, toutes les informations qui étaient dans ce dit serveur-là se perdaient.
Bye bye.
Il
n'y
avait pas de backup.
Puis là, ben, quand ils m'ont regardé, ils ont dit « Ouais, mais on n'a pas besoin de deux serveurs. » Ben, on dit « Tu comprends pas, tu vas perdre toute ton information. » Fait que là, il y a un technicien qui est arrivé puis il a dit « Ouais, ça a du bon sens. Il faudrait avoir un disque dur miroir qui recopie tout à chaque, mettons, à chaque 2-3 heures, qui recopie toute l'information. Fait que si ça pète, ben, on va avoir une autre preuve. »
Tu recommences pas à zéro.
Ça, Denis, c'est dans une binerie, OK? Et après ça, on avait fait un disque dur miroir aussi à ce moment-là puis ça avait bien fonctionné. Après ça, j'arrive dans une entreprise puis pour des raisons incontrôlables, il y a un des deux techniciens qui a dû quitter l'entreprise. Et là, je dis, attends un peu, si on perd l'autre technicien, le technicien décide de prendre sa retraite, là, qu'est-ce qui se passe?
Qu'on fait avec ça, là?
Puis le propriétaire, pas le propriétaire, mais un des employés qui était des boss, m'a dit, d'après moi, que le mot de passe, pénis 1, 2, 3, on est capable de faire un bout.
Un petit bout.
Mais ça...
Mais ça aussi, c'est calme.
Ça avait comme... Ça avait comme... Mais tu sais de qui je parle. Fait que ça avait comme un flag en disant, ouais, finalement, il faudrait peut-être avoir deux gars avec la recette.
Au moins.
Si jamais il arrive quelque chose...
Je sais pas.
Tu sais, on n'est pas dans le trouble.
Ouais.
Mais nous autres, on est capable de penser à ça. Pourquoi au gouvernement, ils n'ont pas pensé à ça? Ben, c'est parce qu'il y a eu un manque de jugement. Puis Éric Kerr devrait se faire encore plus taper ses doigts.
Mais
le problème, c'est
qu'il
ne peut plus se faire plus taper ses doigts. Parce que s'il quitte, ça va occasionner une partielle.
Mm-hmm.
Puis ça va être le Parti conservateur du Québec
qui va
passer
dans ce secteur-là.
Puis
qui va ramasser les grenailles de ça? Moi, je te dis, il y a de quoi que je comprends pas sur le me faire dire ça... dans, mettons, l'arrière-scène et pas à la défense d'Éric Kerr. Vraiment, des gens intelligents qui sont dans un corridor, qui trouvent que... Puis de notre côté, comment veux-tu qu'on trouve que c'est intéressant, que c'est intelligent, cet homme-là, je veux dire, en ce moment, pour mener des projets aussi importants. Puis dans le temps, reculons de 8 ans, 9 ans, des gens dans chacun des ministères disaient qu'on travaillait en silo du côté informatique. Fait que c'est au-delà d'avoir un mot de passe pour le backup puis c'est un homme qui le connaît. Ces personnes étaient interreliées dans nos ministères pour avoir une façon d'établir un processus qui est sensiblement le même ou encore qui se ressemble pour qu'on soit capable de communiquer ensemble. C'est un bordel.
Tu m'as fait allumer sur quelque chose, Yann. Le gouvernement est peut-être assez torieux pour mettre de la pression sur Éric Kerr pour qu'il démissionne puis qu'il cause une partielle. Maintenant qu'Éric Duhaime a annoncé ses intentions dans Arthabasca, ils sont assez ras pour faire une affaire de même, là.
Ça se peut.
Ça serait le bout du bout.
Écoute,
là.
J'ai un gars du ministère de la cybersécurité numérique qui semble avoir déjà travaillé là, qui m'écrit, là, dit, croyez-le ou non, il y a 2-3 ans, les gens au ministère de la cybersécurité numérique avaient des serveurs au MCN et leur redondance était sur le même serveur. Donc, ils avaient pris le même serveur pour faire de la redondance. Fait que si jamais il y avait un dégât d'eau, un incendie, tout ça sur ce serveur-là, c'était fini. Et ça, c'est le ministère de la cybersécurité numérique. Donc, ce que le gars me dit, c'est que Yann, ça a planté, puis la redondance aussi a planté. Il dit « Merci beaucoup, ministère de la cybersécurité numérique. » On est patenté comme Haïti.
C'est incroyable, incroyable. C'est nous autres.
On est le Haïti du Nord au niveau de l'informatique.
Et du reste.
Et du système de santé.
Et du reste.
Effectivement. Hein, on va essayer de... Combien ça a coûté, Denis? T'as-tu le montant?
Non.
De ce que ça a coûté, là, repartir tout le projet à zéro depuis qu'Yann Ouellet est en prison aux États-Unis et qu'il ne peut plus travailler pour Eric Kerr.
Ça n'a pas dû aider, hein?
22 millions qui avaient déjà été dépensés dans le projet avant d'être la pièce maîtresse de l'informatisation des services de l'État qui
on
a officiellement
avait de
été mis sur la glace. On dit que, curieusement, ça n'apparaît même plus au plan québécois des infrastructures, ce montant-là.
Ils l'ont caché! Ça, c'est...
Curieux.
Ah, ça, ça m'écœure, par contre.
C'est très... Qu'est-ce qui t'écœure?
Ils l'ont caché. C'est, ben plus, oui. C'est plus écrit.
Mais c'est de la politique.
Belle transparence.
C'est de la politique.
Après, là, on peut pas chialer. Je comprends, là, les journalistes, vous avez... Merci à ceux qui enquêtent là-dessus. Merci aux entreprises médiatiques qui mettent de l'argent pour ces enquêtes-là, qui donnent du temps à leurs journalistes pour le faire, là. Je pense qu'on est vite à chialer, mais là-dessus, il faut quand même leur lancer les fleurs sans peau, là.
Moi, je me console parce que quand l'hôpital Maisonneuve-Rosemont va s'effondrer, il va tomber sur un Moses de beau parking neuf. C'est important, priorité.
C'est juste pour charger encore plus cher le parking à des gens qui ont des douleurs d'aller visiter leurs proches mourants et en difficulté de santé.
Tu t'attends à quoi, Denis, de la première rencontre entre le premier ministre du Canada, Mark Carney, et Donald Trump?
Eh hey boy! J'espère qu'on se fera pas faire un Zelensky, là, qui vont se mettre à deux dessus. Ah ouais, dis-le que t'aimes les États-Unis! Ah ouais, l'écœurant! Avec le toton, là, Vance, là... Je sais pas. S'attendre à quoi?
Je pense que le Canada est mieux préparé pour faire face à un géant orange de l'autre côté. En 2017 ou 2018, lors de la première rencontre entre Justin Trudeau et Donald Trump, ils ont entraîné Justin Trudeau pour ce qui est de la poignée de main.
Oui, c'est quand même particulier, là.
Pour être sûr qu'il se fasse pas avoir. Imagine-toi le contexte. Tu travailles chez Leclerc Communication, puis là, ton boss dit ta première tâche aujourd'hui, ça va être d'apprendre à donner la main au gars que tu vas rencontrer.
Le pire, c'est qu'on l'a tout checké, comment Carney et Donald Trump se sont serrés à main tantôt. Là. On a tout niaisé là-dessus. Donc, c'est-tu un souk à la corde? C'est qui qui a le lead de la poignée de main? Alors
y a-t-il une veine qui sort?
Le fond est ridicule. Ouais. La fronde que Donald Trump a faite sur ses réseaux sociaux juste avant la négociation, c'est ça qui me rend un peu cynique et lugubre. T'sais, tu t'en vas essayer de repartir sur de nouvelles bases, puis juste avant rencontre, tu répètes toutes les niaiseries que tu as dit au mois de décembre. On a toutes! On n'a pas besoin d'eux autres. On n'a pas besoin de rien. J'espère qu'on va garder notre belle amitié. Il me semble que ça part drôle pour des négociations.
La seule chose qui est différente, mettons, de Zelensky dans ce cas-ci, c'est que c'est vrai que le partenariat économique est important. Il fait semblant que ce n'est pas important pour ses citoyens, mais ce l'est quand même. Il y en a qui périssent économiquement en ce moment, que ce soit dans le voyage, dans le tourisme, mais aussi dans des entreprises importantes. Puis il ne pourra pas donner... Parce qu'on se tient quand même, le Canadien veut pas, un peu, dans toute cette guerre tarifaire-là. Il ne pourra pas se mettre à dos les citoyens qui verraient une scène théâtrale comme on a vu avec Zelensky.
Attendons-nous pas à ce que Trump, cet après-midi, dise « Hey, je retire les tarifs que j'ai mis. » Ça serait une défaite pour lui.
Et Carney, j'aime son approche réaliste par rapport à ce dossier-là. Il dit « La relation est terminée. Là, on ne reviendra pas en arrière avec les États-Unis. Là, il faut négocier sur de nouvelles bases. Il faut voir jusqu'où on est capable d'aller. » Mais on ne serrera pas la main puis qu'on va reculer de 6 mois. Là, ça arrivera juste pas. Le partenariat et la relation privilégiée qu'on avait avec les États-Unis, c'est du passé. C'est triste, mais c'est comme ça.
Oui, parce que Carney mentionne, c'est que tu sais, ce qu'il veut, c'est du respect.
Oui.
Il veut pas.
Ce qui est pas évident.
Il veut pas ce qui s'est passé avec Zelensky. Il a dit nous méritons le respect, nous attendons à du respect. Je m'attends à ce que l'on l'obtienne en temps voulu. Puis il a ménagé ses menaces dans les derniers mois, là, Donald Trump, on va se le dire. Mais j'avais juste hâte de voir qu'est-ce qui va sortir Donald Trump autre que ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que selon lui, les États-Unis perdent des milliards et des milliards au profit des autres pays qui font affaire avec lui. Puis là, je regarde la retranscription, ça semble pas avoir changé, là.
Combien de temps tu peux continuer de bluffer comme ça pour essayer de renégocier toutes tes ententes? La réponse, je la connais pas. Comment on va réussir, nous autres, à tirer notre épingle du jeu? Y est-tu impressionnant, Mark Carney, à porte close, quand tu t'en vas négocier avec, quand tu t'en vas parler avec? On le sait, là, à titre de personnalité puis de perception, on est loin de Justin Trudeau, là, pour le meilleur et pour le pire. Ouais. On en voit, y a un nouveau modèle de premier ministre, là, t'sais.
C'est un gars qui a quand même... Moi, Il n'a pas impressionné sur sa prestance en débat. Il n'a pas impressionné dans sa campagne par sa prestance aussi.
Non.
Mais je ne sais pas si devant Donald Trump, effectivement, pour avoir son passé du côté de l'Europe dans des grandes institutions financières, c'est des gens en finance. Ce n'est pas du monde là, qui ont des émotions quand ils parlent. C'est pas des gens. Ça va peut-être aider versus Justin Trudeau qui en avait beaucoup d'émotions, qui n'était qu'un frame d'émotions d'abord et avant tout, et ça transparaissait. C'est évident pour Donald Trump que c'est manipulable pour lui. Là.
L'autre jour, je suivais des opinionneux un peu conspirationniste. Puis des fois, j'aime ça, moi, les sujets conspirationnistes. Puis il parlait de la relation Justin Trudeau avec Donald Trump. Puis la mauvaise relation aurait parti d'une photo que Donald Trump aurait vue de Melania et de Justin Trudeau.
Puis il y avait G7 aussi.
Et jusqu'à quel point ça peut avoir un impact sur le Grand Orange que sa femme regarde avec une grande admiration un autre premier ministre que lui en tant que président. Un autre homme.
Le pire, c'est que ça fit le profil. La semaine passée, il voulait être pape. En fin de semaine, il voulait être un Jedi. Je veux dire, il se passe de drôles de choses entre les oreilles de Donald Trump.
Je sais pas si c'est Melania, ces temps-ci.
C'est plus de l'attraction, par exemple.
Tu veux dire?
Ben, il veut juste faire jaser.
Je suis pas sûr.
Non.
Je pensais ça au mois d'octobre, quand il disait « Hey, vous allez devenir notre 51e État. » J'étais d'accord avec toi au mois de novembre. Je suis plus. Là. Je pense qu'il se voit pape puis il se voit Jedi. Je pense qu'il est là, là.
Là, on va perdre l'Alberta, là.
Ouais, ben là, s'il voulait donner un coup de pied dans le cul du Canada puis faire en sorte qu'il y ait des nids de guêpes qui partent partout, on peut dire que Donald Trump a réussi son coup.
Daniel Smith a dit, vous savez quoi, pour ce qui est de l'Alberta, moi, je vais permettre aux citoyens de faire un référendum. Moi, j'embarquerai pas là-dedans. Je ne serai pas initiatrice de ça. Mais si les citoyens veulent faire un référendum pour devenir souverains, ben ils le feront. Ça laisse la porte ouverte au 51e État.
Il y a une idée intéressante derrière tout ça, puis ça fait longtemps qu'on en parle ici, l'idée de simplifier les règles pour permettre aux Albertains de faire non pas juste un référendum sur la séparation, mais des référendums en général. Puis l'idée derrière tout ça, c'est justement de passer le plus de dossiers possibles par référendum en Alberta. Une idée qu'on traîne depuis un bout, là, de dire « Hey, tant qu'à aller voter, ce serait le fun de voter sur un dossier. » Tu sais, mettons, prenons un exemple, n'importe lequel. Tu votes pour ou contre le tramway, c'est un bulletin de vote. Puis tu votes pour ou contre Sam Ahmad ou Bruno Marchand, t'as deux cases. Tu sais, ça te permet d'éclaircir certaines choses. Et tu pour ou contre un troisième lien, tu le rajoutes en bas. La taxe au chat, t'es pour ou contre, tu rajoutes un carré en dessous.
Ça serait formidable, ça.
Ah, tu dis, toi, ben c'est ça que l'Alberta fait présentement. On veut alléger les règles pour faciliter l'organisation de référendums publics. Et il y a une vingtaine d'années, je faisais cette prédiction-là, que l'Alberta serait probablement la première province à se séparer du reste du Canada. C'est peut-être ce qui va arriver, mais si jamais ça arrive...
Le dollar canadien s'effondre.
Ah, puis il y a un trou, là. Je veux dire, la Colombie-Britannique, elle fait quoi, là? Je veux dire, elle reste dans le U par les territoires d'en haut, là. Il y a plein d'affaires qui marchent plus, là.
Ouais, mais en fait, c'est parce que l'Alberta doit avoir le droit à l'océan, là.
Mm-hmm.
Fait que ça va être par les chemins de fer. L'Alberta doit avoir le droit à l'océan. Mais c'est sûr et certain que s'ils font copain-copain avec les États-Unis, j'imagine que ça devrait fonctionner aussi par les États-Unis. Mais c'est de la péréquation qu'on n'aura plus, là.
Exactement. Puis je sais pas jusqu'à quel point cette idée-là a de l'attraction en Alberta. J'ai toujours pensé un 30%, mettons, en période d'actualité tranquille. Mais là, au moment où on se parle, je sais pas comment est-ce qu'on file en Alberta par rapport à tout ce qui se passe. Puis c'est quoi qu'on voit d'un bon œil, puis c'est quoi qu'on voit d'un mauvais œil. Les Plaines, ils ont voté pour Poilievre. Tu sais, au Québec, on a voté pour les libéraux. En Ontario, on a voté pour les conservateurs. Mais au niveau de l'Alberta, c'est probablement là que Poilievre a été le plus fort. Donc, on voulait un gouvernement conservateur. On ne l'a pas eu. C'est tout ça qui fait en sorte que tu passes, mettons, de 30 % à 40 ou 45 % de gens qui veulent se séparer. Puis j'ai peut-être une perception biaisée ou erronée des Albertains, mais j'ai l'impression qu'eux autres, quand ça va être le temps de faire un référendum, ce sera pas 50-50, là. Ça va être 70 d'un bord puis 30 de l'autre.
Ça risque de brasser dans les prochaines années. Denis Gravel, merci.
Hey, thank you, les amis.
Je te souhaite de passer un bel après-midi. On t'écoute à 14h.
Salut.
Après la pause, le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, va être avec nous pendant quelques minutes. Midi 36 minutes, vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021. 88-971-1021. Il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis. Merci d'être nos yeux, nos oreilles. Actuellement, dans le secteur Le Bourgneuf, il pleut, plein ciel. Pas beaucoup, là, mais une petite bruine, de ce que je comprends. Des petites averses sporadiques ici et là.
À Québec, c'est un genre de 15 degrés comme température qu'on a et ce sera de la pluie pour toute la journée, maximum de 19. Ce soir, minimum de 13 degrés. Demain, mercredi, ce sera généralement nuageux avec un 40% de probabilité d'averse en matinée et peut-être aussi en après-midi, entre 5 et 10 mm annoncés, maximum de 17. Jeudi, de la pluie. Vendredi, ce sera nuageux. Puis la bonne nouvelle, c'est que samedi, dimanche, ce serait plein soleil pour samedi, maximum de 18 et dimanche, ensoleillé avec un maximum de 19 degrés.
Prudence dans le secteur de l'autoroute 20 Est, hauteur sortie 325 Sud, là, c'est où la route du président Kennedy. Il y a des débris dans les voies, il y a des morceaux de styromousse. Donc, si vous êtes dans le secteur, prudence.
Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec, a officialisé sa candidature dans Arthabasca dimanche. Ça a fait couler beaucoup d'encre dans les journaux. Je sais qu'il a eu une grosse journée d'entrevue hier. Il est avec nous aujourd'hui. Salut Éric Duhem.
Bonjour Yannick.
Ça a-tu commencé à s'essouffler un peu, là, les entrevues? Là? Je sais que tu étais très occupé.
Je pensais qu'aujourd'hui, c'était supposé, sauf que non. Là, ce matin, la presse nous apprend que l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, qui est le gros hôpital ici dans le comté, ben là, finalement, le gouvernement qui avait annoncé 360 millions d'investissements pour un agrandissement, là, le projet avait commencé à être construit. Là, quand est arrivé les histoires, même avec Maisonneuve-Rosemont, là, c'était un peu la même affaire là, ici. Là. Et là, le projet avait été mis sur la glace. Et là, ils viennent de le redémarrer, là, exactement comme Maisonneuve-Rosemont. Donc là, encore une autre tournée médiatique aujourd'hui qui est peut-être plus locale, mais qui est aussi importante, sinon plus, là, pour les gens d'ici.
Oui, puis ce qui est le plus drôle hier, c'est que je faisais ma tournée média, puis je voyais que tu avais donné plusieurs entrevues, puis à chaque fois, tu parlais de l'hôpital, de l'hôpital dans ton secteur. Puis aujourd'hui,
18 entrevues où j'ai parlé de l'hôpital hier, de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, puis aujourd'hui, ben, le gouvernement recule. Qui est la bonne décision à faire, là, mais ce qui démontre comment c'est la cohue, comment le système de santé au Québec, c'est un bordel incroyable, puis comment il y a trop de structures, il y a trop de bureaucratie, puis que les décisions politiques sont difficiles à suivre, là, qu'il est vraiment temps qu'on additionne la contribution du privé puis qu'il y ait de la concurrence dans ce réseau-là.
Comment tu vas faire pour te faire percevoir comme un gars qui est là pour les bonnes raisons dans Arthabasca plutôt qu'un candidat qui est parachuté? Mm.
Ben d'abord, ça fait comme un an qu'on sait qu'il va y avoir une élection partielle dans Arthabasca. Fait que ça fait un an que je suis présent sur le terrain. Ça fait déjà plusieurs mois que j'ai même loué un pied à terre ici à Victoriaville pour.
T'as-tu fait un gros profit? Parce que si t'as fait un gros profit, tu vas encore passer dans le journal.
Là, faudrait que t'expliques aux gens de quoi tu parles, là, parce que j'ai vendu récemment mon condo à Québec, je suis déménagé, et j'ai fait 100 000 piastres de profit, comme tout le monde, ou à peu près, qui vend de l'immobilier, c'est aussi, là, c'est rare qu'on perd, on vend moins cher que ce qu'on a payé, là, et semble-t-il que c'était un gros profit. C'est un peu, écoute ça, là, mais ça témoigne de quelque chose, là, je veux pas attaquer un média en particulier, là,
ouais.
Mais ça témoigne de quelque chose qui est problématique au Québec, là. Moi, du monde qui fait de l'argent, là, j'espère qu'il va en avoir plus, pas moins. Et les politiques conservatrices, là, c'est justement ça qu'on veut. On veut que le Québec se développe puis que les gens prospèrent. Puis pas en disant, là, en étant jaloux parce que le gars a rendu sa maison plus chère que ce qu'il avait payé, qu'on va avancer comme société. Là. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce que tu vas ailleurs dans le monde, là, puis quelqu'un qui vend sa maison plus cher que ce qu'il a payé, c'est vu comme un winner. Puis quelqu'un qui vend moins cher que ce qu'il a payé, c'est vu comme un loser. Ici, c'est le contraire. Il aurait fallu que je passe quelqu'un d'honorable que je la vende moins cher. C'est quoi ça, cette mentalité-là? Il faut changer ce réflexe-là. Ouais.
Mais t'as tellement le vent d'en face avec les journalistes au Québec. Moi, ça me fait halluciner. Imagine-toi si Yves-François Blanchette avait vendu sa maison ou son condo. Ou si, je sais pas, moi, Marc Tanguay avait vendu sa maison ou son condo. Ils ont leur maison depuis 4-5 ans puis ils se font un profit de 200-300 000. Ça aurait jamais passé dans le journal.
Non, c'est pas une nouvelle, je veux dire, j'ai vendu un condo, ben oui, puis tu sais, 100 000 piastres, là, j'ai fait des rénaux, il a fallu que je paye le notaire, il a fallu que je paye l'agent immobilier, il a fallu que je paye toutes sortes de frais, il a fallu que pendant ce temps-là, je l'entretienne, je veux dire, un instant, là, j'ai pas, si tu te mets pas riche en vendant une maison nécessairement, il y en a que oui, là, quand tu l'as pendant plusieurs années, puis tu fais plusieurs centaines de milliers de dollars de profit, mais c'est pas en tout le coût du condo dont on parle, puis on parle pas d'un condo là, qui vaut 3 millions, là. On parle d'un condo qui vaut 300-400 000 piastres.
Donc là, il te reste un pied à terre à Victo puis un pied à terre à Montréal. Le Québec, il te reste-tu encore quelque chose?
Oui, non, j'ai déménagé, là, je suis rendu ailleurs à Québec. Je ne dirai pas où, là, parce que ça va encore faire des nouvelles. Là.
Mais tu vis dans tes valises, trois places pour habiter?
Je vis dans mon char, je ne vis même pas dans mes valises. Je veux dire, être chef d'un parti politique, là, tu parles de trois places, mais en fait, c'est plus que ça. Parce que là, non, là, parce que là, je vais être à Victoriaville dans les prochaines semaines, presque exclusivement. Mais normalement, si tu fais des tournées régionales, écoute, c'est la semaine passée ou l'autre avant que j'étais en Outaouais pour aller parler du prix de l'essence justement du côté d'Ottawa versus Québec, versus Gatineau. Tu fais beaucoup, beaucoup de routes. C'est normal, je suis pas le seul. Là, tous les chefs de parti au Québec, le territoire est grand, la population est dispersée, fait que t'as pas le choix d'aimer tout promener en char. Là.
T'as-tu l'impression que tu arrives dans le bon temps? On regarde là, la décote du Québec, les problèmes économiques, les problèmes avec nos infrastructures. Je lisais, c'est hier ou avant-hier, la chronique de Mario Dumont qui disait « Attention à Éric Duhaime, parce que ça prend... » Il y a très peu de droite économique à l'Assemblée nationale. En fait, il n'y en a pas. Ils font des promesses de droite économique, mais une fois rendus au pouvoir, sont très, très à gauche. Mario Dumont disait « Attention un peu, attention, là, les amis, Éric Duhaime s'en vient, puis avec le contexte économique qu'on vit actuellement à l'Assemblée nationale, ça ferait bien de l'avoir. »
Oui, c'est ce qui se passe présentement. Tu as raison de parler du contexte. C'est souvent en politique, tout est une question de timing. Puis oui, il y a un déplacement présentement sur l'échiquier politique là, des électeurs québécois de la gauche vers la droite. Puis on le voit là, avec Québec solidaire qui est en train de s'effondrer ou à peu près. Là, ça va pas bien. On vient de le voir au fédéral avec Jack Metzing qui a pratiquement disparu. Il a pratiquement fait disparaître son parti. Alors que, malgré le fait qu'on est déçu que Poilievre n'ait pas été réélu premier ministre du Canada, le Parti conservateur du Canada a quand même engrangé quoi? 2 millions de votes de plus, 25 députés de plus. Il y a quand même un mouvement qui est en train de se procéder. Puis au Québec, les mauvaises nouvelles qui s'accumulent, là, si on parle aujourd'hui de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ou ici, là, de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca qui est en un état de décrépitude, là, qui veulent couper parce qu'ils ont plus une scène, parce qu'ils sont obligés de couper dans les infrastructures. Parce qu'on vient d'être décoté, on va être obligé de payer plus d'intérêts à la dette, parce qu'on enregistre le pire déficit de l'histoire du Québec. Je veux dire, économiquement, là, ce gouvernement-là a beaucoup trop dépensé, puis il n'a jamais été challengé, il n'y a jamais eu personne de concurrence à sa droite. Toutes les parties poussaient pour qu'il soit encore pire, pour qu'il dépense encore plus, qu'il nous endette encore plus. Et donc, je pense que c'est normal, à un moment donné, qu'il y ait un retour du balancier, puis c'est sain pour la démocratie, puis il est temps, grandement temps, que les 530 000 personnes qui ont voté conservateur aux dernières élections soient représentées à l'Assemblée nationale. J'étais content hier, là, ça arrive pas tous les jours là, qu'on parle de ça, là, Yannick, là, mais il y avait le panel à Radio-Canada hier soir, là, Chantal Hébert puis Michel C. Auger qui disait qu'il faudrait que je sois élu dans Tabasco.
Il ajoutait quoi à ça?
C'est pas des membres du Parti conservateur du Québec, là, je vous préviens tout de suite, là, je pense que tout le monde a compris ça.
Il ajoutait quoi à ça? C'était la qualité de débat, c'était la représentativité.
Il y avait deux choses. Chantal Hébert disait si la démocratie existe encore au Québec, et les conservateurs doivent être à l'Assemblée nationale.
Exact.
C'était à peu près ça, là, je la paraphrase. Là. Puis Michel C. Auger disait que c'était normal que ces idées-là. Ils sont trop importantes au Québec pour pas être au Parlement. Puis il ajoutait même qu'il trouvait que j'étais plus sympathique que les conservateurs fédéraux. Fait qu'il trouvait que c'était une autre bonne raison que je fasse mon entrée à l'Assemblée nationale. Mais c'est quand même exceptionnel. Là. Pas tous les jours que je cite Chantal Hébert, puis Michel C. Auger, puis du Radio-Canada sur vos ongles là, pour parler de gens qui nous ont endossés.
Ouais. Là, Victo, ce qu'on comprend, c'est que le Parti québécois ne te fera pas de fleurs. Ils vont présenter un candidat là.
Oui.
Les libéraux, ils vont mettre une plante parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas de chance de passer dans ce
secteur-là.
Ils n'ont pas de chef. Non. Ils n'ont pas de chef non plus. La Coalition Avenir Québec, est-ce que t'as des hints là, comme quoi ils vont peut-être présenter quelqu'un ou ils le feront pas?
Ce que j'ai compris, c'est que leur candidat fait déjà campagne, mais ils n'ont pas encore annoncé officiellement. Puis qu'ils attendent, tu sais, ils jouent le chat et la souris là, avec l'opposition parce qu'ils veulent prendre les pilotes à terre, parce que pendant la nuit, ils vont se mettre à installer leurs pancartes, ces poteaux, puis le monde va se réveiller un matin, puis Victoriaville va être tapissé mur à mur, là, puis ils vont, François Legault, à 9h le matin, va convenir les médias, puis avec son candidat pour leur annoncer que ça va être lui le candidat pour essayer de prendre une longueur d'avance sur ses adversaires. C'est toujours ceux qui font. Ils jouent avec la date des élections là, pour essayer d'avoir un avantage sur l'opposition. Puis je m'attends à ce qu'ils vont faire exactement la même chose ici. Ils avaient fait la même chose aussi dans Terrebonne. C'est la façon de faire de la CAQ.
En même temps, est-ce que tu aimes mieux faire une campagne où il y aura énormément de compétition ou une campagne où on te laisse passer sans te faire de compétition?
Ben écoute, il y a une tradition, effectivement, que quand un chef se présente à une élection partielle, il y a des partis qui ont l'élégance de ne pas présenter personne. Ça s'appliquera pas ici, mais moi, ce que j'ai dénoncé, c'est pas le fait qu'il présente quelqu'un, c'est l'hypocrisie qui est derrière ça. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon, que je trouve qu'il est un visage à deux faces. Ce gars-là, pendant la campagne électorale, disait que ce serait pas normal si les conservateurs n'étaient pas remportaient pas de siège. Au lendemain de l'élection, il m'a même appelé pour me dire comment c'était horrible la distorsion démocratique. Il l'a dit publiquement. Il a dit qu'il fallait tout faire pour qu'à l'Assemblée nationale, la voix du Parti conservateur du Québec puisse se faire entendre si on veut arrêter le cynisme au Québec, puis si on veut que les gens aient l'impression que la démocratie fonctionne bien. Puis la première occasion qu'il y a, dès que j'annonce ma candidature, il n'y a même pas de candidat de choisi, c'est même pas qui va être contre son candidat. Il ouvre un local, il convoque les médias, puis commence à faire campagne. J'ai juste trouvé qu'il parlait les deux côtés de la bouche en même temps, puis que c'était un pas fiable.
Mais c'est pas un peu de la politique, ça? Éric, ça t'es-tu arrivé, ça, dans la vie? Ou as-tu l'impression que c'est juste un moment où il sent que le sable est mouvant?
Faire de la politique, là. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire de politique. Mais à un moment donné, là, as-tu des principes ou t'en as pas? La démocratie, tu peux pas être d'accord juste quand ça fait son affaire, puis la sacro vidange quand tes intérêts partisans sont menacés. Je trouve que il parle des deux côtés de la bouche en même temps, puis j'ai juste voulu mettre l'emphase là-dedans. Ce gars-là est pas fiable. Puis je suis pas tout seul à penser ça. Je suis sûr que si Yves-François Blanchette, il vous parlait, là, puis il savait qu'il n'y avait pas de micro, il vous dirait probablement la même chose que moi, parce que lui-ci, il s'est fait faire un peu le même coup ces derniers jours. Là. Puis il était supposé être son allié, puis son ami, puis il a planté le couteau, après avoir le manche. Là. Donc, ce gars-là essaie d'avoir une image, je parle de Paul Saint-Pierre Plamondon, tu sais, du genre parfait, mais dès que tu grattes politiquement un peu, il est aussi pire, sinon pire, que tout ce qu'il dénonce.
Qu'est-ce que tu vois comme changement actuel en politique provinciale comparativement aux dernières années? Puis là, on parle pas de ton parti, on parle pas de dans la structure, dans le changement, dans l'ère citoyenne actuelle.
Bien, ce qui change, c'est qu'il y a un... Il y a un gouvernement qui est très, très, très impopulaire, puis il y a de l'insatisfaction. Ça, je pense que tout le monde a compris ça. Là. On a un gouvernement qui était, moi, là, je suis dans le comté d'Arthabasca, qui était le meilleur comté de la CAQ. Là. Si aujourd'hui les gens votaient, la CAQ serait troisième loin. Là. Donc, il y a beaucoup d'insatisfaction par rapport au gouvernement. Puis il y a beaucoup de cynisme dans la population par rapport à ça, parce qu'ils sont fait mentir, parce que la CAQ nous a dit une chose, puis elle a fait son contraire. Puis les gens se cherchent une nouvelle place où aller. Donc, c'est pour prendre une image, là, c'est un stationnement de la CAQ où il y avait bien, bien du monde. Puis là, les autos partent de là, puis ils cherchent une nouvelle place où aller. Puis il y en a qui sont en transition, puis ils cherchent une place. Dans quel stationnement ils vont se retrouver au cours des prochaines heures, des prochains jours, dans quelle maison ils s'en vont. Je pense que c'est un peu ça qui est il y a du flottement politiquement. Puis c'est pour ça qu'une élection comme celle dans Tabasco est aussi importante, parce que ça pourrait être un élément qui va changer les choses. Puis le timing aussi est important. Ça va arriver à juste un petit peu plus qu'un an avant les élections. Puis à Québec, on a connu ça. Là. Rappelez-vous que quand la CAQ est arrivée au pouvoir, un an avant les élections, on avait une élection dans Louis Hébert, qui a été très importante, cette élection-là. La CAQ avait un candidat au début qu'elle était obligée de changer en cours de campagne. Et finalement, c'est Geneviève Guilbeault qui était supposée se présenter dans une autre circonscription qui est sortie de nulle part. Et c'est elle qui a été élue, puis ça l'a propulsé la CAQ, si vous vous rappelez bien. Là. Ça a comme donné un élan à la CAQ en vue de la campagne électorale. Ça a complètement changé la dynamique à l'Assemblée nationale. Ça a fait élire un gouvernement caquiste majoritaire. Donc, à un an des élections, là, c'est un moment clé. Puis Arthabasca pourrait présenter l'élection là, qui va marquer un pivot. Parce que le problème que, par exemple, le Parti québécois a présentement, c'est que eux, ils ont monté très, très, très vite après l'élection. Puis là, tranquillement, la balloune commence à se dégonfler. Puis dans Arthabasca, ils pourraient rencontrer leur mur. Et c'est pour ça que Paul Saint-Pierre Plamondon fait des pieds et des mains présentement.
T'sais, on parlait tantôt des fameux hôpitaux, là, les hôpitaux du l'hôpital du secteur Arthabasca, puis l'autre, oui. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Oui. Tout ça, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'était connu depuis des années, années. Là, ma conjointe qui est infirmière me parlait de cet hôpital-là en disant que c'était un des pires hôpitaux qu'on pouvait avoir au Québec, mais tellement que c'était désuet.
Des trous de même, des écureuils, ça n'arrive pas du jour au lendemain.
Et à un moment donné... TVA s'est pointé, on fait un reportage sur l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et du jour au lendemain, les politiciens ont dit « Ah, ben on va aller voir qu'est-ce qui se passe là », puis on a visité, puis on a pris des belles photos, puis on a pris des images, là, puis qu'on a présenté ça à Radio-Canada puis à TVA, puis là, les politiciens étaient là « Ben ça donc ben pas de bon sens, puis c'est inacceptable, ici et ça », alors que c'est connu depuis des années et des années. Cette grosse hypocrisie-là, là, tu sais, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est mis devant le fait accompli comme quoi les hôpitaux au Québec, on en a l'arrache, puis on manque d'argent, puis notre premier ministre, des fois, manque un peu de jugement en disant « Ouais, c'est le bordel à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Sont en train de dévier la chute d'eau qu'il y a dans l'hôpital. Ils veulent pas l'arrêter, ils veulent juste la dévier pour que l'eau réussisse à retourner dans les égouts. On a trouvé finalement de l'argent pour faire un stationnement. » C'est juste hallucinant, là, les choses auxquelles on assiste actuellement, Éric, là.
C'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai, si on n'en avait pas parlé, si ça n'avait pas été médiatisé, il n'y a absolument rien qui aurait changé.
Jamais.
Puis c'est ça qui est le problème, le drame, par exemple, où je me trouve présentement à la Victoriaville, parce que eux, là, il n'y a jamais personne qui va débarquer avec des caméras. Là. Tu sais, là, Yves Poirier ne va pas débarquer avec sa caméra à l'Hôtel Dieu d'Arthabasca. Puis dans bien des régions, c'est comme ça. Là. Il y a des choses qui fonctionnent tout croche, mais c'est le Québec tranquille, un peu invisible, pas bruyant, qu'on n'entend pas souvent parler. Et ces gens-là, ils payent autant de taxes et d'impôts que les autres. Puis c'est pour ça aussi que je vais me présenter dans une région, parce que je pense que, tu sais, les quatre chefs viennent de la grande région de Montréal. Hein. Faut jamais oublier ça. Ils sont tous élus dans une circonscription de la région de Montréal. Mais le Québec, c'est pas juste Montréal. Et il faut qu'un autre Québec soit aussi visible. Tu sais, j'ai dit une image en fin de semaine, là, mais c'est tout à fait exact. Là, tu sais, je suis dans un comté présentement là où c'est le Québec qui se lève tôt, qui travaille fort, puis qui nourrit l'ensemble des Québécois, parce que c'est très agricole. Et ce Québec-là, ben, il a besoin aussi de se faire entendre, puis c'est ce que j'espère que le Parti conservateur va être le véhicule pour faire avancer leurs revendications, puis faire connaître leur réalité.
Félicitations pour ta candidature dans Arthabasca. Tu te mets les couilles sur la table, puis tu travailles fort, puis ben, je souhaite que tu aies le résultat que tu désires, Éric.
Merci beaucoup, Yannick. Merci à vous autres.
Salut! Merci. Bye. Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec. Puis je suis un peu d'accord avec Mario Dumont, ce qu'il écrivait dans les derniers jours, comme quoi ça prend un peu plus de droite économique. Moi, je suis un gars de droite économique, mais pour le reste, je suis un peu plus au centre. Là. Des fois, je suis un petit peu plus à gauche, des fois, je suis un petit peu plus à droite. Pour ce qui est des sentences, exemple, pour des gens qui ont fait des crimes odieux, Alexandre Bissonnette n'aurait jamais espoir de revoir le jour. Je suis un peu plus de droite pour ce qui est des gens qui commettent ce genre de crime-là. Mais pour le reste, je me situe vraiment au centre. Puis Mario Dumont, ce qu'il disait, c'est qu'actuellement, l'ambiance au niveau de l'économie n'est pas à son meilleur au Québec.
Non, non.
Ça prendrait peut-être un parti un peu plus à droite, parce que ça va commencer avec le comté d'Arthabasca. Ben, pour ceux qui le souhaitent, ce sera déjà un bon début s'il réussit à se faire élire.
C'est l'après-pandémie. Hein. C'est tellement tough ce qui s'est passé là, économiquement parlant, autant pour les foyers que l'inflation, que les chèques donnés, que pour les gens en business, puis il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, puis c'est interrelié. Tout le monde connaît quelqu'un qui est en business, là. Fait que tout ce qui se passe avec les États-Unis qui s'ajoutent, c'est comme si on n'avait jamais remonté la pente. Fait que c'est sûr que ça revient une priorité principale, forte et électorale versus juste une opinion politique à travers les 10 dernières années.
Mais dévier une chute d'eau dans l'hôpital, dévier une fuite d'eau...
Et que ça devienne
dans l'hôpital,
une solution.
C'est une fuite perpétuelle. Là.
Quelqu'un dit, on va faire des visites touristiques à la chute Maisonneuve-Rosemont bientôt.
Non, mais c'est une source, c'est comme... C'est une source d'eau là, qui coule du plafond jusqu'en bas. Oui. Puis ils se sont dit, on n'est pas capable de colmater la brèche. Fait qu'on va faire en sorte que l'eau suive le chemin qu'on veut qu'elle suive pour finalement retourner dans les égouts. Je veux dire... On n'est pas si mal à manger que ça, mais nos hôpitaux...
On va construire des puits dans d'autres pays. On serait sûrement capable de faire de quoi avec une chute d'eau dans un hôpital.
Des fois, je dis souvent la blague, on est le Haïti du Nord, là, parce qu'ils sont mal organisés, Haïti, présentement. Puis de plus en plus, je commence à croire cette joke-là que je fais sur l'Haïti du Nord. On est l'Haïti du Nord. Puis on met énormément d'argent. C'est plus d'un milliard par semaine, les amis. Fait que ça prend un parti qui va vous représenter au niveau économique à l'Assemblée nationale. Puis si c'est Éric Duhaime, ben ce sera Éric Duhaime et son parti. Midi 55, on fait une courte pause. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021. 88-971-1021. Le chroniqueur financier Pat Raymond est en studio, très content de le voir. C'est le gars du podcast Financièrement parlant. C'est un ex-gestionnaire de patrimoine, c'est un ex-militaire, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Salut mon chum.
Allô, comment
un
ça
va? Un étudiant en plus, hein, il arrive d'un examen à son âge, à la retraite.
Ça, là, c'est la vraie liberté.
Fin de session.
50 ans, quand tu peux te permettre de retourner à l'université, je me suis toujours dit que j'allais le faire. Ça allait être en philosophie. Je te l'ai déjà dit, puis t'avais été surpris. Mais j'ai ça dans ma tête depuis des années,
Pourquoi pas?
C'est juste pour se tenir en forme, mentalement. C'est important de le faire.
Oui, puis ça emmène un stress, parce que j'en avais un stress ce matin, c'est l'examen final, fin de session. tantôt, Pascal, non, ça a-tu bien été? Je ne sais pas. Oui, puis non. C'est quand même, c'est en économie, c'est complexe, les graphiques. Les...
Mais ça me fait rire que tu te mettes cette pression-là parce que t'as pas accédé à une notation. Ouais. T'es en compétition avec personne.
Avec lui-même.
T'es juste dans ton apprentissage personnel. Même si toi, t'as pas une cote X à l'université, ça servira pas.
Ça servait à rien. C'est ça que mon gars, il dit. Il dit, papa, pourquoi tu vas à l'école? T'as pas besoin d'aller travailler.
Ah non, ça, je comprends
pas. Mais moi, j'aime ça apprendre. Puis oui, c'est un défi personnel, mais je pense que je partage un peu ce que Yannick... Quoique la philosophie m'intéresse, mais tu sais, pourquoi pas aller dans quelque chose qui n'est pas payant alors que tu es à la retraite? T'sais, la philosophie, hein, non?
Je voyais ma grand-mère dans le temps, 70 peut-être, là, étudier l'anglais.
Oui.
Puis écouter des affaires à la télé qu'on allait la voir, mettons, dans les débuts d'année 2000. Puis je trouvais ça fascinant. Elle n'allait pas retourner sur le marché du travail à devoir parler anglais ou autre, mais cognitivement...
C'est
ça
pour
faisait en sorte,
allumée.
Oui, puis elle aimait ça.
C'est de l'entraînement. Hein. C'est...
Le muscle, c'est le cerveau, c'est un muscle.
Tout à fait.
Puis il faut que tu le travailles constamment. Comme, pourquoi les gens ils font des mots croisés? C'est justement pour faire de l'exercice.
Ouais, ça fait suer quand tu bloques. Là.
Ça fait suer. T'sais, moi, j'ai une madame à la maison qui tripe ses casse-têtes. Là. Pendant des heures et des
avec
heures.
Avec des petits morceaux, là.
Elle peut fixer le casse-tête, les petits morceaux, puis là, il y en a 1000, puis là, les chats qui sont au travers, puis là, les chats, tu sais comment, c'est gossant. Hein?
Ouais.
Et tu mets quelque chose sur le bord d'une table, le chat, il regarde avec sa patte, il te regarde des yeux, il regarde sa patte. Puis il sac ça à terre, puis il te regarde. Il fait ça avec ses casse-têtes constamment, mais elle se garde mentalement active en faisant du casse-tête. C'est une fille qui travaille avec sa tête aussi, c'est une infirmière clinicienne.
Mais, oui.
Mais les casse-têtes lui permettent de se relaxer tout en continuant de travailler.
C'est une forme de méditation, je crois.
Aussi.
C'est une façon d'arrêter son cerveau ou de le concentrer plutôt sur une chose. Puis souvent, c'est ce qu'on fait pas. On pense tellement à plusieurs choses en même temps. Dans mon cas, moi, ça m'arrête d'étudier. Mais l'examen, je sais pas pourquoi, je pense que c'est psychologique. Ça me ramène quand j'étais flo, puis là, tu avais un examen. Puis, tu sais, celle-là d'aujourd'hui était, comment on dit ça, donc pas synchronisée, mais en fait, c'était un examen planifié. C'est pas moi qui décidais que je la fais ce matin.
Okay.
C'était la date pour le cours que je suis présentement en économie. Mais tu sais, Yann et Pascal, c'est parce que je veux tellement me documenter pour venir alimenter le show ici.
Tu comprends-tu? Ça pour nous. À tes propres frais.
Ça augmente ma crédibilité. Le jour que je serai rendu au doctorat, là, on augmentera le cachet. Mais non, c'est blague à part.
Un docteur en économie.
Blague à part, comme Francis, l'ami Francis Gosselin, entre autres. Mais tu peux être docteur aussi en philosophie. Là, tu vas faire ton PhD, puis tu te fais avec un tutorat. Mais tu sais,
j'ai hâte de le voir habillé en poche de jute avec les cheveux longs.
Honnêtement, je pense pas me rendre jusqu'au doctorat. Là.
Pourquoi pas.
Juste l'idée de faire quelque chose qui t'a toujours fait triper.
Ben oui.
Puis, bref. Hey, chronique économique, aujourd'hui, on parle du gars de Berkshire Hathaway. Son nom, c'est Warren Buffett, un homme de 85 ans. Son surnom, c'est l'oracle d'Omaha. Il a décidé finalement, à 94 ans, de prendre sa retraite. Il vaut plus de 129 milliards de dollars.
Oui.
Il était temps qu'il prenne sa retraite.
Ça, c'est sa valeur, mais il y a quand même beaucoup de cash. Là. Il y a plus que ça en cash dans Berkshire, là. Prêt à déployer. Puis, tu sais, on parlait d'activité, justement, du cerveau. Là. Tu sais, l'activité du cerveau, 94 ans, puis encore très actif, puis très... c'est pas le gars le plus flamboyant, non. Là, en meeting. Là. Je le regardais un peu en fin de semaine avec son coke, puis... mais je sais pas, quand il parle, tu sais... L'oracle, comme on dit. Là,
mais il est très fonctionnel au niveau finance, il est très fonctionnel. Mais pour tous ceux qui ont lu les livres sur Warren Buffett, tu te rends compte que ce gars-là, tout seul, pas accompagné, il meurt.
Il est perdu. Il y a juste ça. Il y a juste ça qu'il connaît.
C'est sa femme. C'est sa première femme qui a tout réglé au quart de tour la vie de Warren Buffett.
À un moment donné, il en avait deux.
puis je vais te raconter l'histoire. C'est que un moment donné, ils ont décidé de se séparer où elle s'est dit, c'est pas vrai que je vais rester avec un boulet jusqu'à la fin de mes jours. Fait qu'elle a dit, regarde, Warren, on se sépare, mais je vais trouver ta femme. Puis à tous les jours, il allait manger tout le temps au même restaurant.
Oui.
Puis, ils ont parlé de leur projet à leur serveuse, parce que c'était tout à la même serveuse. Puis, la serveuse a accepté de devenir la conjointe de Warren Buffett.
C'est beaucoup d'affection, mais c'est aussi très étrange.
Et cette femme-là...
Très beau.
Et cette femme-là est toujours... La serveuse de restaurant est toujours avec Warren Buffett à ce jour.
Elle a fait son plus gros pourboire à vie ce jour-là. Là.
Oui, je sais, mais tu sais, il faut que ça fitte quand même. Là.
Oui, mais tu sais, il a pas l'air demandant nécessairement en relation. Il fait ses petites affaires.
Non, mais c'est un cheap aussi, là. Il donne rien à ses enfants à sa mort. Il envoie tout ça à la fondation de Bill Gates. Il donne absolument rien.
C'est quelqu'un
à ses enfants.
De très particulier, puis on pourrait décliner sur tous les autres fortunés qui sont des gens très particuliers.
Puis dans un de ses livres, ils ont demandé à sa première femme, mais pourquoi vous vous êtes chargé de lui trouver une autre femme? Il a dit, c'est simple, il pensera pas à manger, puis il va mourir. Ça en dit long sur le personnage.
Pareil, c'est fascinant. Puis,
il l'a jamais actionné pour ces propos-là, donc c'est vrai.
Oui, mais c'est des gens qui sont dans leur tête. Tu sais, puis y a-tu une forme d'autisme au travers de ça qui fait en sorte qu'ils ont une fixation
ben,
sur les chiffres et tout ça?
Je croirais.
Mais ils sont hyper concentrés, mais pour le reste, pense pas à manger. Pascal, c'est quand même la base de la vie, manger.
Ouais, à un moment donné, c'est comme un enfant, il se laissera pas mourir.
Exact.
Là. Hey, moi, je pense que c'est une façon de voir, mais...
Il s'est pris 100 000 $ US, 100 000 $ pas besoin de préciser US, là, 100 000 $ l'année passée. Il se prend un revenu de 100 000 $
Puis il vaut...
Tout le reste est investi, réinvesti, puis toute la patente.
Il est encore dans sa vieille maison.
Sa vieille maison de 1958.
Encore avec son vieux char.
Sauf erreur, il avait encore son Cadillac. Il avait changé son, il avait changé son 2014 pour un 2018. Oh, wow, la ganterie. Mais non, mais j'adore ça. J'adore ça, quelqu'un comme ça. Ce sont mes riches préférés. Moi, personnellement, je connais quelqu'un qui vaut quelques millions. Et jamais, tu vas croire que jamais. Vraiment jamais.
Oui, mais ça légitimise le fait que t'es cheap, Pat. Mais... C'est pour ça que t'es aimes.
C'est pas moi. Mais en le disant, j'ai pensé que vous auriez pensé. Ouais. Mais tu sais, Warren Buffett, juste pour faire, puisqu'on en parle, pour faire du pouce, il a quand même toujours donné les mêmes conseils parce qu'il y avait une formule qui était simple et gagnante qu'on peut appliquer pour nous aussi personnellement. Là. Le but, c'est pas de devenir comme Warren Buffett nécessairement, mais de prendre les bonnes habitudes, c'est d'investir dans ce qu'on comprend. Tu sais, il dit « Investis dans ce que tu comprends, investis dans ce que tu connais en partant. » Fait que lui, il était longtemps, je ne sais pas si tu connais un peu, tu sais, avec Apple, c'était long avant qu'il aille vers les technologies parce qu'il ne comprenait pas que c'était quoi. Puis à un moment donné, il a saisi. Puis tu sais, on dit Apple, mais on n'est pas là pour recommander des titres boursiers ici en onde. C'est juste sa composition de portefeuille. T'sais, après ça, il est allé dans le Dairy Queen, il connaissait ça. Après ça, c'est allé dans du fast-food, dans du Coca-Cola, des compagnies d'assurance, du crédit. Il a composé un portefeuille avec des compagnies de tous les jours. De fait, des compagnies que lui utilisait à tous les jours. Puis il a commencé à bâtir ça depuis des années. Sa crédibilité, quand même, depuis le nombre d'années, c'est quand même fascinant. Là, la moyenne, je pense, depuis la dernière année, on était à au-delà.